La source de votre caractère. Qu'est-ce que le caractère? Le philosophe américain du début du XXe siècle, William James, l'a formulé ainsi. J'ai souvent pensé que la meilleure façon de définir le caractère d'un homme serait de rechercher l'attitude mentale ou morale particulière dans laquelle il se sentait le plus profondément et le plus intensément actif et vivant. Dans ces moments-là, il y a une voix intérieure qui parle et qui dit « C'est vrai moi !» En bref, selon James, votre caractère est le vrai vous. Mais cela soulève la question suivante. D'où vient le vrai vous? La parole de Dieu a des réponses réelles et solides sur notre identité et notre caractère. Et nous verrons qu'elles sont fondamentalement enracinées, non pas dans les actions ou le comportement de l'homme, mais dans le don gracieux de Dieu en Christ. Comment définir le caractère? Noah Webster a proposé des définitions à la fois concrètes et abstraites du caractère. La définition concrète se réfère à des choses physiques. La définition abstraite est alors basée sur ce concept physique. Concret. Marque faite par découpage ou gravure, c'est un matériau destiné à contenir de l'écriture. Abstrait. Qualité particulière imprimée par la nature ou l'habitude à une personne et qui la distingue des autres. Arrêtons-nous un instant sur l'origine physique des caractères. Les premiers systèmes d'écriture utilisaient un stylet pour tracer des marques ou caractères sur des tablettes d'argile molle qui étaient ensuite cuites pour préserver les marques. L'argile était la surface d'écriture idéale pour capturer des caractères car elle possédait trois propriétés importantes. L'argile était suffisamment souple pour recevoir une marque, suffisamment ferme pour la conserver et suffisamment durable pour que la marque soit cuite de manière indélébile. Des parallèles significatifs peuvent être établis entre les concepts physiques et spirituels du caractère. L'écriture sur une tablette d'argile permettait d'atteindre deux objectifs. Numéro 1, les caractères ont été préservés. Et numéro 2, les caractères pouvaient servir à communiquer avec d'autres. De la même manière, en écrivant les paroles de Dieu sur la table de notre cœur, nous pouvons recevoir et conserver ces paroles et nous pouvons les communiquer aux autres. Le caractère, c'est ce qui a fait impression sur un homme et aussi ce qui peut faire impression sur un autre homme. Aujourd'hui encore, les gens disent des choses comme « Tu m'as vraiment impressionné » pour décrire le caractère de l'autre personne. Ou encore « Cette femme a vraiment laissé sa marque. » Aujourd'hui, nous allons explorer la parole de Dieu pour apprendre ce qu'est le caractère et d'où il vient. Au fil de notre voyage, nous commencerons à découvrir que le caractère est moins lié à nos œuvres qu'à sa grâce. D'où vient le caractère? Quelqu'un a dit, et je paraphrase, « Il faut puiser au plus profond de soi pour trouver le courage d'aller l'avant. » De telles déclarations montrent que, selon l'évaluation de l'homme, le caractère vient de l'intérieur. En tant que croyant, cependant, nous comprenons que le caractère a besoin d'un puits plus profond que celui que nous trouvons à l'intérieur de nous-mêmes. Il doit être plus grand que nous. Et c'est le cas. La réponse est que Dieu est la source ultime du caractère. Tout ce qui est excellent et digne de louange vient de lui. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, le grec c'est arrêté, l'excellence morale, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu est le plus excellent et le plus digne d'éloge. D'où vient donc ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et qui mérite l'approbation de lui? Cela nous rappelle les paroles de Joseph à Pharaon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Même lorsque nous sommes les plus aimants et les plus merveilleux, ce n'est pas par notre propre pouvoir ou notre bonté inhérente que nous manifestons tous les traits du caractère pieux de Christ. 2 Pierre 1:1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Tout ce que nous avons aujourd'hui en Dieu dans le Christ, nous l'avons dans et par la foi de Jésus-Christ que nous avons obtenue avec notre salut. La mienne n'est ni meilleure ni plus complète que la vôtre. La vôtre n'est ni meilleure ni plus complète que la mienne. C'est pourquoi Pierre déclare ici qu'il s'agit d'une foi du même prix que la nôtre. Ni vous ni moi n'avons fait quoi que ce soit pour la mériter. Par conséquent, aucun d'entre nous ne peut y ajouter quoi que ce soit. Elle est parfaite et complète, telle que Dieu nous l'a donnée. 2 Pierre 1, 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et en chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre commence par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur et conclut par la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette connaissance ne peut pas consister à connaître le Christ selon la chair, car il n'est plus physiquement présent sur terre, mais il est assis dans les cieux avec son Père céleste. Cette grâce et cette connaissance doivent indiquer quelque chose de plus grand, et c'est le cas. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance, celle de Dieu, grec dunamis, le pouvoir de réaliser en appliquant les capacités inhérentes du Seigneur, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Grec, encore une fois, c'est arrêter l'excellence morale. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles vous deveniez participants, grec koinonos, partenaire de Dieu, de la nature divine, manifester les caractéristiques de Dieu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Jésus-Christ a possédé et manifesté l'excellence morale de son Père, Dieu. Les qualités d'excellence morale qui enrichissent nos vies par le biais de la connaissance de Dieu doivent en fin de compte découler de la puissance divine de Dieu et non de la nôtre. Ce n'est absolument pas en moi. Cette puissance est le potentiel réalisé qui nous permet d'afficher les caractéristiques de sa nature aux yeux du monde entier. Aussi merveilleuse que soit la compréhension de cette première section, les quelques versets suivants m'ont longtemps laissé perplexe. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Je n'arrêtais pas de me demander, si la foi de Jésus-Christ est absolument complète et ne manque de rien, pourquoi ces versets nous exhortent-ils à la compléter par toutes ces qualités différentes? Avant de répondre à cette question, examinons une à une les 7 caractéristiques énumérées afin de savoir de quoi il s'agit. La première qualité, la vertu, se rapporte numériquement à Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu. La vertu est l'excellence morale comme celle de Dieu. La vertu grecque arete est ce qui est à la fois glorieux et digne d'éloge. La deuxième qualité, la science, selon second 1910, ou la connaissance, selon second 21, se rapporte numériquement à la différence. La connaissance est la connaissance de lui par opposition au monde. Il s'agit de la connaissance appliquée et de la perspicacité acquise par une relation directe avec le Père. La troisième qualité, la tempérance, en second 1910, ou la maîtrise de soi, en second 21, se rapporte numériquement à la complétude. La maîtrise de soi est la domination intérieure de l'homme tout entier, corps, âme et esprit. La quatrième qualité, la patience, selon second 1910, ou la persévérance en second 21, est numériquement liée à la terre. La persévérance est une endurance patiente à la lumière de notre espérance. Nous persévérons dans l'attente du retour du Christ. La cinquième qualité, la piété, est numériquement liée à la grâce. La piété est la réponse du cœur en partenariat avec Dieu par la grâce. La piété produit une véritable révérence pieuse et non une religion. En tant que telle, elle est à l'opposé des œuvres de l'homme. La sixième qualité, l'amour fraternel, se rapporte numériquement à l'homme. L'amour fraternel est l'amour des autres croyants. Le grec est Philadelphia, de Philos, ami affectueux, et Adelphos, un frère. La septième qualité, la charité, en second 1910, ou amour, en second 21, se rapporte numériquement à la perfection spirituelle. L'amour agapé est une dévotion qui se sacrifie. L'amour du Père et de son Fils, démontré par le Christ et démontré par nous dans une relation pieuse avec Dieu en tant que notre Père. Alors, pour en revenir à ma question précédente, pourquoi joindre à notre foi? Pourquoi la compléter alors que la foi de Jésus-Christ est une mesure pleine et entière? Les qualités que nous sommes exhortés à joindre à notre foi ne découle pas de notre valeur ou de notre bonté inhérente, mais de la sienne. Lorsque nous ajoutons la vertu, l'excellence morale, c'est son excellence morale. Lorsque nous ajoutons la connaissance, c'est la connaissance de lui. Lorsque nous ajoutons la maîtrise de soi, c'est sa maîtrise de la personne entière, corps, âme et esprit. Lorsque nous ajoutons la persévérance, c'est son endurance patiente à la lumière de l'espérance. Lorsque nous ajoutons la piété, c'est la réponse de son cœur en partenariat avec le Père par la grâce. Lorsque nous ajoutons l'amour fraternel, c'est son amour qui se sacrifie pour les autres croyants. Lorsque nous ajoutons l'amour du Père et pour le Père, c'est l'amour qu'il a eu pour son Père dès le début. Le reste du passage commence à s'ouvrir à nous comme un chemin dégagé devant nous. En Christ, nous avons une voie d'accès dégagée pour poursuivre notre route avec Dieu. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée ou richement fournie. C'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait la douceur dans la vie. Dans la foi de Jésus-Christ, Dieu a pourvu à tous les aspects de ce dont nous avons besoin pour marcher en nouveauté de vie, y compris toutes les qualités ou traits de caractère du Christ. Lorsque nous pratiquons ces qualités dans notre marche, cela ouvre la voie à notre progression dans la grâce de Dieu vers notre destination éternelle. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On pratique ces qualités parce qu'on est déjà parfait dans le Dieu en Christ en nous. Pour mieux apprécier ces différents traits de caractère, voyons comment le Christ les a manifestés au cours de son ministère terrestre. La vertu, l'excellence morale. Comme nous l'avons appris précédemment, la vertu est l'excellence morale glorieuse et digne d'éloge que nous possédons grâce au Christ. La transfiguration du Christ devant Pierre, Jacques et Jean, relatée dans 3 des 4 évangiles, en est l'illustration physique. Matthieu 17, 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » La glorieuse apparition physique du Christ, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, reflétait la beauté spirituelle. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » De même, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire lorsque nous le regardons. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous pouvons refléter cette belle excellence morale parce que nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. La connaissance. La connaissance que Jésus-Christ avait de son Père céleste était à la fois réelle et personnel. Contrairement aux pharisiens, il a utilisé la clé de la science pour entrer dans la présence de Dieu et partager cette connaissance avec les autres. Luc 11, 52. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Jésus-Christ a vécu à portée de main et était toujours prêt à ouvrir la porte de son cœur à son Père céleste. Luc 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. La maîtrise de soi. Jésus-Christ était un maître de la maîtrise de soi, l'exemple parfait de la domination intérieure du moi, corps, âme et esprit. La réponse de Jésus aux tentations du diable après qu'il eut reçu l'Esprit de Dieu en est l'exemple le plus frappant. maîtrise du corps, la faim. Jésus-Christ a montré sa maîtrise du corps dans sa maîtrise de soi lorsqu'il a été confronté à la faim après un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Maîtrise de l'âme, l'intelligence, l'orgueil. Jésus-Christ a montré sa maîtrise de l'âme ou de l'intelligence par sa maîtrise de soi lorsqu'il a été confronté à la tentation de s'enorgueillir de son statut céleste de fils de Dieu. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » La maîtrise de l'esprit, l'adoration. Jésus-Christ a montré sa maîtrise de l'esprit dans son contrôle de soi lorsqu'il a été confronté à la tentation d'adorer l'adversaire après s'être vu offrir tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » La persévérance. Face à la croix, Jésus-Christ est resté ferme et l'a supporté patiemment en vue de la joie de l'espérance qui lui était réservée. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La piété, le partenariat avec Dieu par la grâce. Jésus était confiant dans toutes les situations grâce à son partenariat avec Dieu par la grâce. Regardez la confession dans sa prière lorsqu'elle a ressuscité Lazare. Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Contrairement aux pharisiens, Jésus-Christ s'est préoccupé non pas de l'extérieur, ce qui serait la religion, mais de l'intérieur, ce qui est la vraie piété. Il est dit en Luc 11, verset 40, « Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?» L'amour des autres croyants. En tant que Seigneur et Maître, Jésus a montré son amour pour les disciples en leur lavant les pieds. Jean 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En tant que bon berger, Jésus a montré son amour pour les brebis en donnant sa vie pour elles. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'amour de et pour Dieu. Par son amour indéfectible pour son Père céleste, Jésus-Christ a personnifié le premier et le plus grand commandement en Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De plus, doté d'un esprit sans mesure, le Christ était aussi profondément conscient de l'amour sans réserve que le Père lui portait. » Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Il est clair que Jésus-Christ nous a laissé l'exemple parfait de la vertu, de la connaissance, de la maîtrise de soi, de la persévérance, de la piété, de l'amour des autres croyants et de l'amour agapé. 1 Pierre nous exhorte à suivre ses traces. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Nous suivons cette trace en suivant son exemple. Nous n'avons pas seulement vu les exemples évangéliques de ses traits de caractère, mais nous avons obtenu spirituellement l'essence même de ses qualités par la foi de Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus physiquement présent parmi nous. Comment pouvons-nous aujourd'hui croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus? Jésus-Christ avait des qualités ou des caractéristiques distinctives qui le distinguaient de tous les autres. L'une d'entre elles est que, bien que tenté en toutes choses comme nous le sommes, il n'a jamais péché. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le caractère exceptionnel du Christ nous est rendu accessible spirituellement dans son intégralité par le biais de la foi de Jésus-Christ. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ayant le Christ en nous spirituellement, nous pouvons revêtir la pensée du Christ. Nous connaissons le Christ non pas par le biais d'une relation conversationnelle personnelle, mais en puisant dans les qualités spirituelles de son excellence morale. Cette connaissance expérimentale de lui dans notre marche ne peut être rendue possible que par une seule chose, à savoir la grâce. Jean 1, 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Remercions Dieu pour l'exemple du Christ et pour tous les mérites et capacités que Dieu nous a accordés par son œuvre accomplie. Son excellent caractère est notre source à exploiter. Puisons et buvons à pleine gorgée.